Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites, c'est pas fou.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Une machine ? Comme un robot ?
Écoutez-moi ça. L'engin qui a tué Cantrell, c'était un robot de déminage trafiqué et lourdement armé. Incroyable, non ?
C'est une armée constituée dans un seul but. Détruire le monde des hommes.
Article 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Cette règle, qui n'est écrite dans le code civil d'aucun pays, a pourtant été imprimée à des millions d'exemplaires. Et non, elle n'apparaît pas dans la Bible, mais c'est tout comme, puisqu'il s'agit de la première des trois lois de la robotique édictée par Isaac Asimov, qui n'est autre que l'une des figures majeures de la science-fiction, aux côtés de H.G. Wells, Ursula Le Guin ou Philip K. Dick. Comme toutes les lois, même fictives, celles-ci n'existent pas sans raison. Déjà qu'ils nous collent des dérouillés aux échecs et aux go, on sait qu'à un moment donné, les robots ne se contenteront plus gentiment de plier notre linge sale et de faire la guerre à notre place. Grâce à Matrix, Terminator ou encore Black Mirror, on sait aussi qu'une cuisante défaite nous pend au nez. Ces films et séries qui font œuvre d'avertissement, les armées françaises, russes, chinoises, américaines, turques et j'en passe, ont choisi de ne pas en tenir compte. À quatre pattes, volant, sur chenilles ou sur l'eau, le robot soldat est une réalité à laquelle nous devons nous préparer. Notre invité du jour, Arnaud De Villard, nous dira sans doute qu'elle est déjà là. Arnaud, aux dernières nouvelles, tu n'étais ni un androïde, ni un cyborg, mais l'expert data, IA, réalité virtuelle et réalité mixte de la rédaction de Science et Avenir. Bonjour.
Bonjour.
Vous non plus n'êtes pas un robot si vous avez oublié ou si vous êtes passé à côté de l'info, à savoir qu'une attaque aurait apparemment été menée par des robots, des Cargo 2, en mars 2020. L'info a fait le tour du monde. Est-ce que tu peux revenir sur les faits, Arnaud, et nous dire en quoi ils sont potentiellement importants pour la suite ?
Bah, tout à fait, oui. C'est effectivement une actualité qui a été reprise beaucoup par beaucoup de journaux grand public, hein, pas du tout des journaux spécialisés dans la guerre ou les armes. Donc l'idée, c'est dans un rapport de l'ONU en mars 2021, des experts là, qui travaillaient sur le conflit actuel, la guerre civile en Libye, ont fait un rapport sur tout ce qui s'y passe. Et à un moment donné, il est mentionné une attaque qui a été essuyée par les troupes anti-gouvernementales qui battaient en retraite et qui auraient été attaquées par voilà, des Cargo 2, c'est-à-dire c'est des drones quadricoptères qui auraient attaqué ce qu'on voit en mode autonome. Et là, ce que je vous dis, c'est exactement tout ce qu'il y a dans ce rapport. C'est-à-dire que le rapport fait 556 pages et il y a quelques lignes sur cette attaque. Il y a les mots autonome, il y a les mots drone armé et ça a excité tout le monde. Et en fait, si on regarde, on ne sait pas. On ne sait pas si l'attaque a fait des morts, on ne sait même pas s'il y a eu un tir, on ne sait pas si le tir était autonome.
Ou s'il a été déclenché
ouais. À distance, effectivement, comme ça se fait en fait, on en reparlera comme ça se fait la plupart du temps. Apparemment, le guidage, c'est-à-dire le déplacement des drones était autonome, mais même ça, on n'est pas trop sûr. Donc voilà, il y a ce flou, il y a les faits qui ne sont pas très clairs et l'imaginaire qui s'est greffé dessus. Et c'est vrai que ça a été beaucoup repris de média en média sur le mode « ça y est, les robots tueurs sont là, Terminator c'est maintenant, les robots sont lâchés, on ne peut plus les arrêter ».
Cachez-vous. Bon,
la réalité de ce rapport est beaucoup plus floue et la réalité en général elle-même est beaucoup plus nuancée. Quoi.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui on a des drones ou d'autres robots terriens ou marins qui peuvent tirer ou répliquer sans qu'un humain ne leur en donne l'ordre?
Alors, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, il y a des machines, quand je dis machine, il faut tout de suite oublier justement le Terminator, le robot androïde qui se déplace sur un champ de bataille avec son fusil à la main.
La main levée vers sa cible.
Voilà. On va parler de robots, mais quand on dit robots ou drones, ça peut être des robots terrestres, des chenillettes, ça peut être des avions, ça peut être même des robots submersibles, des bateaux, enfin voilà. Mais oublions Terminator, enfin, on va dire visuellement l'androïde. Alors après, est-ce que certains sont capables de tirer tout seuls? Ce qui existe aujourd'hui, c'est des machines qui ripostent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un stimulus, on va dire, pour reprendre un terme qu'on connaît, extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune machine ne décide toute seule de tirer. C'est-à-dire ce qu'on appelle d'engager, c'est-à-dire d'identifier tout seul une cible sans qu'on lui ait rien demandé, de la traquer, de la cibler et de tirer. Ça n'existe pas. Oui, techniquement, ça n'existe pas.
Le fantasme de la tourelle automatique.
Voilà. La tourelle automatique existe. Elle est montée sur, par exemple, ça existe sur des bateaux de guerre américains. Une tourelle, voilà, qui tire, mais elle ne tire que, par exemple, quand elle voit arriver, par exemple, une torpille ou un bateau, selon plein de critères. C'est-à-dire que la vitesse, la direction, donc elle ne tire pas toute seule parce qu'elle voit quelque chose arriver. Il faut qu'il y ait plein de paramètres qui ont été codés à l'avance, quoi. Et encore une fois, elle ne va pas décider tout d'un coup, le bateau patrouille, et tout d'un coup, elle voit une cible loin, elle identifie deux, trois trucs qui lui mettent la puce à l'oreille, et elle va tirer. Non, ça n'existe pas. Et c'est pareil, vous avez sur la frontière, c'est un des exemples les plus connus, à la frontière des deux Corées, donc ce qu'on appelle la DMZ, la zone démilitarisée. L'armée de Corée du Sud a pris le parti de surveiller cette zone avec justement ce qu'on appelle des sentinelles automatiques, donc qui sont en fait des tourelles, des mitrailleuses automatiques. Il n'y a personne derrière. Les soldats eux-mêmes, humains, sont à distance, à 10 km de distance, dans des bunkers ou des salles de contrôle. Et en fait, ce que fait la tourelle, c'est qu'elle surveille la zone et elle identifie des mouvements par caméra thermique, par caméra infrarouge. Donc ça fonctionne de jour comme de nuit. Elle détecte les mouvements et les zones de chaleur. Quand elle a détecté une forme suspecte, elle lance une alerte déjà au potentiel personne ou envahisseur qui traverse la zone. Elle dit attention, n'approchez pas une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, elle envoie une alerte chez les soldats qui, eux, donc ce sont les Sud-Coréens qui sont postés donc voilà, à des kilomètres de distance, qui eux vont décider de tirer ou pas. Donc voilà, donc la tourelle elle-même, là, dans ce cas-là, ne va pas tirer. Le seul exemple, on va dire, enfin un des rares exemples, parce que je ne connais pas tout, c'est, on en a beaucoup parlé pendant les dernières heures, on va dire, qu'il y a eu au Proche-Orient, entre le Hamas, donc de la bande de Gaza, et l'armée israélienne. Donc l'armée israélienne dispose d'un système qui s'appelle le dôme de fer, qui est un système assez complexe, mais dont l'élément principal, ce sont des roquettes anti-roquettes, en fait, des missiles anti-missiles, qui sont là pour lancer des missiles et détruire les roquettes du Hamas qui arrivent. Et en fait, l'enjeu, c'est à la fois de détruire effectivement ces roquettes avant qu'elles touchent le sol en Israël, mais surtout, le Hamas envoie des dizaines de roquettes en même temps, pour justement ce qu'on en reparlera sûrement.
Surcharger
la détection, saturer ce qu'on appelle saturer l'espace. Humainement, c'est impossible de lutter contre ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant qu'opérateur derrière vos radars, se dire « Ah tiens, celle-là, elle va arriver, il y a celle-là aussi, j'ai plutôt privilégié. » Ça, c'est impossible de prendre la décision en temps assez vite pour éviter une catastrophe. Donc ce qu'il y a, c'est que tout est automatisé. C'est-à-dire que le système radar, le système de détection sont connectés à un système de calcul de trajectoire. C'est-à-dire qu'au même temps qu'il repère une roquette, le système prédit en fait, le point d'impact. Et en fonction de ces prédictions, il décide de laisser passer certaines roquettes et de détruire d'autres. C'est-à-dire qu'il estime que certaines roquettes vont tomber et vont exploser en Israël, mais ne feront pas de victimes ou pas de dégâts. Donc celles-là, elles vont tomber. Et du coup, ce qui laisse le champ libre, on va dire, pour détruire les autres roquettes, parce qu'il n'y a pas toujours une roquette contre une roquette.
Oui, c'est un peu le dilemme auquel on confronte certains véhicules autonomes en disant, bon, bah voilà, tu arrives à 90 km/h, tu dois faire le choix entre sauver les gens qui sont sur le passage piéton, mais que tu n'as pas vu, et que tu détectes là tout juste, et la vie du conducteur. Et donc là, en gros, l'intelligence artificielle, c'est un gros mot hein, pour désigner, j'imagine, l'énorme matériel derrière ce matériel sol-air qui doit protéger Israël, doit faire le choix entre certains missiles qui vont toucher des cibles prioritaires et d'autres qui seront peut-être plus bénins, on va dire, au niveau des dégâts.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Alors, en plus des drones plus ou moins libres d'agir que tu viens de citer, la course à l'armement robotique a l'air quand même d'être en train de s'accélérer avec des projets de plus en plus élaborés, hein, d'après ce que tu nous disais et ce que tu nous dis dans ton article. À quels enjeux le déploiement d'armes autonomes ou les machines ou les robots, répond-il ? Alors, je suppose qu'il y en a un paquet. Le premier auquel moi je pense, et j'imagine que nos auditeurs aussi, c'est la réduction des pertes humaines.
Tout à fait, c'est le premier enjeu, c'est ça. C'est, voilà, on est arrivé dans une époque où pour plein de raisons, voilà, c'est de plus en plus difficile pour des gouvernants d'annoncer des morts. Voilà, il y a certains pays, notamment les nôtres, les pays on va dire occidentaux, ne supportent plus d'apprendre que 110, 22 soldats sont morts en opération. C'est, voilà, il y a un enjeu de communication, un enjeu politique derrière. Bon. Et donc effectivement, cette idée d'une guerre, on va dire, robotisée, algorithmique, automatisée, répond à l'idée de réduire les pertes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de morts du tout, parce que la guerre, il y a des morts, et notamment pour une raison simple, c'est que quand on fait la guerre, généralement, c'est pour acquérir des positions. C'est que quand deux pays s'affrontent, ce n'est pas juste à distance avec des robots, enfin, juste à distance, voilà, en s'envoyant des missiles et en attendant que... Il y en a un qui s'arrête. Non, et à un moment donné, il y en a un des deux qui veut occuper du terrain, qui veut gagner, qui veut conquérir quelque chose. Et pour conquérir quelque chose, eh ben en fait, il faut envoyer des hommes. Donc à un moment donné, oui, il y aura des hommes sur le terrain. Sauf qu'avant ça, les pays qui sont engagés dans ce genre de développement ont compris que les premières phases d'une guerre, d'un conflit, sont les plus meurtriers. Parce que les armes sont de plus en plus élaborées, sont de plus en plus précises, sont de plus en plus, font de plus en plus de victimes, et souvent indéterminées, civiles... militaire. Donc du coup, ces premières phases de conflit, beaucoup de pays se disent non, mais on ne peut plus engager des hommes là, ça va être une boucherie. Quoi. Et donc du coup, on met des machines pour en gros faire le gros et le plus sauvage du travail. Quoi.
La première vague.
Mais la première vague, c'est exactement ça.
Et parmi les projets portés par les différentes armées que toi tu as étudiées, donc les projets d'armes autonomes, est-ce que tu as distingué des philosophies différentes?
Oui, tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour prendre notre pays, la France, il y a un credo en France qui gouverne un peu tous les développements liés à ça, c'est il faut toujours qu'il y ait un homme, un humain qui contrôle quelque chose à un moment donné. Et la plupart du temps, dans les projets qui sont en tout cas en train de se faire jour, c'est beaucoup de projets de logistique, d'assistance aux troupes. Voilà, ce qu'on appelle des robots mules qui vont transporter du matériel, des robots de reconnaissance. Par contre, tout ce qui est notamment en Chine ou en Russie, là, l'idée, c'est vraiment de constituer des divisions. Alors, on ne sait pas jusqu'à quel niveau d'autonomie ils envisagent, mais par exemple, Vladimir Poutine a clairement déclaré qu'à terme, il veut qu'il n'y ait plus de soldats russes sur le terrain. Bon, c'est un peu audacieux et surtout un petit peu, c'est un peu de la com.
Ouais.
Mais en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il veut constituer des unités entières de chenillettes, notamment de chenillettes automatisées qui iront au combat sans qu'il y ait des hommes, en tout cas derrière. Qui seront juste des chenillettes autonomes qui iront sur le terrain.
Et les Américains dans tout ça?
Alors les Américains, pendant longtemps, ils étaient sur une philosophie un peu similaire à la France, à savoir, il y a toujours un homme qui va, des hommes qui vont contrôler tout ça. Et puis en fait, à un moment donné, ils ont viré leur philosophie en se disant que non, en fait, ce qui serait pas responsable et pas éthique, ça serait plutôt d'envoyer des hommes au combat, avec en face, par exemple, des drones chinois. Et il y aura un déséquilibre patent et ils peuvent. Ils ont décidé que c'est pas possible d'assumer ça. Donc eux aussi ont décidé d'aller à fond dans l'autonomisation des armes, encore une fois, sans qu'on sache jusqu'où déjà où ils veulent aller et jusqu'où on peut aller. Quoi.
Exécuter l'ordre 66.
Oui, monseigneur.
Et on a vu ces dernières années, même ces deux dernières décennies, quand même pas mal de documentaires ou d'infos qui remontaient sur le traumatisme que portaient certains pilotes de drones, notamment du côté de l'armée américaine. Est-ce que pour toi, ça fait aussi partie, est-ce que c'est des arguments en plus pour l'autonomisation des armes de guerre? Parce que justement, en fait, même s'ils ne sont pas là sur le terrain avec l'arme en main, finalement, dès l'instant où tu appuies sur le bouton tirer, même si c'est à 10 000 km de distance, tu restes l'auteur du tir.
Il y a plusieurs éléments, effectivement, dans ces histoires de stress des soldats à distance, et notamment l'idée que ces soldats n'étaient pas dans un contexte. Il y avait effectivement le fait d'appuyer sur un bouton à distance et de voir le résultat de ce qu'ils faisaient, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du pilote de bombardier qui était en l'air et qui lançait sa bombe sans voir l'effet. Là, il y avait cette idée que le soldat voyait ce qu'il faisait, et y compris les erreurs. Et en plus, c'était des cas où les opérateurs de drones étaient complètement extraits du contexte militaire. Donc, il n'y avait pas ce côté... on est entre soldats.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il était dans son bunker, et puis après il sortait, puis limite il rentrait chez lui, au milieu de sa fête. Et donc c'était totalement ingérable.
Oui, il aurait fait ça dans un cybercafé, c'était pareil.
Et c'était en fait, et on s'est rendu compte que c'était totalement ingérable, humainement, psychologiquement, de faire assumer à quelqu'un un acte guerrier et de le faire rentrer chez lui à 5 heures comme s'il avait fait des horaires de bureau. Et donc l'idée aussi avec tous ces développements, c'est finalement de garder quand même une ambiance, on va dire, une atmosphère, on est en guerre, quoi. On est en guerre et on est entre professionnels de la guerre, quoi. Même si on n'est pas sur le terrain, voilà, les opérateurs sont avec des autres soldats. C'est aussi un moyen de faire bien la division, en fait, la séparation, pardon, entre voilà, la vie sur le terrain et, et le reste, la vie civile, quoi.
On reste sur l'armée américaine. Il y a deux projets dont j'aimerais bien que tu nous parles. C'est le bateau Sea Hunter et un truc qui est quand même assez emblématique, c'est les fameux essaims de drones qui sont, enfin, dans le registre de la flip, on est quand même pas mal, quoi.
Tout à fait. L'histoire du bateau, donc c'est le Sea Hunter, c'est un bateau qui, c'est un projet de l'Agence de développement et de recherche de l'armée américaine qui s'appelle la DARPA, qui mène plein de projets de recherche, enfin qui est très, très connu pour tous ces projets, qui bosse avec Google, qui bosse, enfin, avec plein de gens. Donc là, il y a un projet depuis 2016 de bateau, de navire, hein, c'est un navire autonome, donc il n'y a aucun équipage à bord. Et c'est un navire qui patrouille en mer et qui est censé détecter les sous-marins ennemis. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Voilà, on ne sait pas beaucoup plus, mais il y a des photos qui ont été montrées, il y a des tests qui ont été menés par l'armée. Donc voilà, il est connu. Après, est-ce qu'il va engager les hostilités? Est-ce qu'il va tirer? Ça, c'est loin d'être sûr. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, il est fait pour patrouiller tout seul dans l'eau. Et à ce propos, justement, le milieu marin et sous-marin est plus propice au développement de machines autonomes que tout ce qui est terrestre. Parce que finalement, il y a beaucoup moins d'obstacles à gérer en mer. Il y a beaucoup moins d'aléas, on va dire, de terrain, beaucoup moins d'aléas, d'autres paramètres entre les civils, les bâtiments civils, les bâtiments ennemis. Donc, il y a, là, en mer, vous êtes en mer. Voilà. Et à part, vous avez géré des rochers, éventuellement des mines qui ont été placées par l'ennemi, mais c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est vrai que c'est pas étonnant qu'un tel projet de... Vraiment autonome, hein, je dis. Il n'est pas piloté à distance. C'est pas étonnant qu'un tel projet soit mené en mer, quoi.
Et pour ce qui est de l'essaim de drones ?
Alors, l'essaim de drones, c'est un des développements parmi actuellement les plus stratégiques qui se passent. Parce que sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'infos, parce que tout le monde bosse dessus, c'est-à-dire les Américains, les Israéliens, les Chinois. Et alors, quand on parle d'essaim de drones, on imagine des centaines de drones qui volent en même temps. Donc ça existe, hein, notamment dans des parades. Des fois, on voit des drones qui dessinent des motifs dans le ciel. Voilà. Donc c'est ça, l'essaim de drones. Et c'est ça qui est en train d'être étudié à usage militaire. Mais ce n'est plus des centaines de drones. Là, c'est des milliers, des dizaines de milliers, voire plus, qui fondraient sur une cible, genre typiquement un bateau ou une usine d'armement ou une armée. Donc, il faut imaginer des dizaines de milliers de drones, parfois des mini-drones avec, par exemple, une charge explosive qui fondrait sur une cible, et des drones de différentes natures. Ça peut être des drones terrestres, des drones aériens, des drones sous-marins, tout ça en même temps. Donc, pour piloter ces essaims, c'est impossible, voilà, encore une fois, d'avoir des opérateurs humains dans un bunker avec des manettes. Donc, c'est évidemment avec de l'intelligence artificielle et de l'algorithme qu'on peut piloter ça. Et en face, et ben pour lutter contre ça, il faut aussi des technologies, comme j'ai expliqué pour le dôme de fer, des technologies qui permettent d'identifier à quoi on riposte et qu'est-ce qu'on laisse attaquer. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est de saturer l'ennemi avec tellement d'informations, tellement d'agressions de toutes parts, qu'en gros, ça le paralyse, quoi.
Ouais. Comme un robot ?
Pas un robot. Un cyborg. Cybernétique micro-organisme.
Non.
À quel point, ce que toi, là, tu nous dis sur les projets, c'est vraiment ce qui se passe au sein des armées. Enfin, quelles sont les sources d'informations dont toi, tu disposes sur les différents projets menés par les armées russes, américaines et compagnie? Et est-ce que finalement, ces projets-là, ce n'est pas juste des projets vitrines qui apparaissent dans les salons? Et en fait, le plus flippant, si je peux me permettre, il est derrière et on le découvrira sur le terrain.
Alors oui, effectivement, la plupart... des développements se passent souvent un peu sous le radar, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, et on les découvre soit lors d'une démo, soit parce qu'il y a une communication qui a été faite, officielle, soit parce que, voilà, et tout d'un coup, quelque chose a été utilisé sur le terrain et ça fait l'actualité, comme ça s'est passé, par exemple, en Syrie. Les Russes testent beaucoup se servent du conflit en Syrie comme un terrain d'expérimentation, mais un terrain d'expérimentation grandeur nature. Et par exemple, là, on les a vus utiliser des chenillettes, ils appellent ça des Uran 9, enfin Uran 9, 9 c'est en anglais. Donc c'est en fait des chenillettes téléguidées, téléopérées, parfois autonomes, mais téléopérées, qui ont fait des actions sur le terrain. Des chenillettes avec une, voilà, anti-char. Et donc tout ça, on le sait, mais voilà, on ne le sait pas en amont, quoi. On le sait parce qu'on les découvre. Et effectivement, ces travaux sur les essaims de drones, c'est parce qu'il y a eu des tests ou des communications qui ont été faites pour dire à quel point ça a été concluant. À l'inverse, les États-Unis ont communiqué ou en tout cas fait une simulation qui a été faite, en gros, l'armée américaine face à la Chine. Et ils ont fait des simulations de combat avec notamment des essaims de drones et tout un système de... Et ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait... les Américains se sont fait...
Laminés.
Donc ils étaient très très inquiets.
C'est prometteur pour la suite.
Voilà.
J'ai pas réagi sur le côté extrêmement flippant quand même de l'essaim de drone, en espérant qu'il ne verra jamais le jour, parce que c'est quand même un projet... qui porte son lot d'angoisse.
Son lot d'angoisse, d'autant plus qu'il y a des choses très très concrètes qui se sont passées. On le voit arriver. En fait, on voit arriver ça parce que cet été, il y a au Sénat en France, il y a eu un rapport sénatorial qui a été rendu, donc des experts qui ont rendu un rapport sur les drones, sur l'usage des drones dans l'armée française, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on fait et qui ne marche pas, et ce qu'il faudrait faire plutôt. Et il y a eu une partie sur à la fois les essaims de drones et un autre aspect mais qui recoupe, qui est le drone suicide. Mmh. Et c'est des choses qui sont déjà arrivées dans des conflits, notamment en Azerbaïdjan, au Yémen, où certains des belligérants étaient très suréquipés, étaient très forts. Mais en face, ils avaient des gens qui, en gros, c'est un peu le système D, et qui envoyaient des drones avec des petites charges explosives et qui allaient s'écraser sur les énormes tanks qui étaient censés être élaborés et qui étaient censés remporter la partie. Et en fait, non. La Géorgie s'est fait battre en partie par les Azéris parce qu'ils n'étaient pas du tout équipés, notamment en drones et en ces stratégies de drones suicides et de drones qui saturent l'espace et qui empêchent une riposte efficace. Quoi. Donc oui, ça existe déjà, en fait.
Ouais, et ça va changer le visage de la guerre.
Ah, ça peut changer tout à fait, effectivement, le visage de la guerre parce que ça va changer la manière de... Bah, d'appréhender l'ennemi, d'appréhender le danger, enfin une attaque. Et ça nécessite aussi beaucoup de technologies de communication aussi.
Pour les piloter, j'imagine qu'il faut un bon réseau 4G sur place, ce genre de choses.
Et surtout, qu'est-ce qu'on rend autonome? Qu'est-ce qu'on rend pas autonome? Qu'est-ce qu'on continue de piloter à la main? Donc il y a plein d'enjeux qui n'étaient pas justement des enjeux de ces, j'allais dire ces dernières années, mais depuis ces 15 dernières années, quoi, qui deviennent effectivement tout ce qui est bande passante, tout ce qui est cyberdéfense, ça devient totalement central. Quoi.
Oui, parce que si jamais tu te fais pirater ton essaim de drone, t'es quand même...
Exactement, et c'était un des enseignements du test dont je viens de parler entre la simulation qu'avaient fait les Américains face à la Chine. Ils se sont rendus compte que eux, la stratégie des Américains depuis très très longtemps, c'est concentrer les forces et aplatir l'ennemi sous un tir de barrage énorme qui en gros tétanise l'ennemi tellement les Américains ont envoyé des bombes et tout ce qui... Bon. Donc ils ont voulu faire ça et ils se sont rendus compte qu'en fait ça ne marchait pas parce qu'en fait, en face, l'ennemi pouvait être moins équipé mais pouvait être plus doué en hacking, en technologie de communication et jusqu'à justement nuire à l'offensive américaine. Quoi. Donc oui, les enjeux sont très très différents de 10, 15, 20 ans. Quoi.
C'est l'Empire qui a envoyé un droïde sonde.
C'est-à-dire que l'Empire nous a repérés.
Et à quel point les commandements... Alors je suis désolé de te poser ce type de question parce que tu ne fais pas partie des états-majors, mais dans ton dossier, tu donnes une illustration des différents niveaux d'autonomie auxquels peuvent accéder les robots. Le dernier, c'est l'autonomie totale, façon Terminator. À quel point les états-majors sont prêts à aller vers ce niveau d'autonomie, je crois qu'il est le niveau 6, si je ne dis pas de bêtises, et est-ce qu'ils sont prêts à leur laisser le doigt sur la gâchette, en quelque sorte?
Alors, ces niveaux d'autonomie, effectivement, c'est un chercheur mathématicien de l'Université de Limoges qui s'appelle Thierry Berthier, que je tiens à citer ici, parce c'est un spécialiste de la question, et j'ai beaucoup parlé avec lui. Il a élaboré ça sur le modèle des voitures autonomes, de différents niveaux d'autonomie. Donc le niveau 0, c'est le drone téléopéré, c'est la machine télécommandée. Donc il y a zéro autonomie, jusqu'au niveau 6, voilà, comme tu viens de le dire, c'est le robot, voilà, même les spécialistes disent le mot, hein, c'est le robot Terminator, c'est le robot totalement autonome, qui fait tout seul, qui se déplace tout seul, qui identifie tout seul des cibles, qui traque sa cible tout seul, et qui tire tout seul, quoi, qui prend la décision, voilà, de tirer.
Et que tu ne peux plus rappeler.
Et que tu ne peux plus, voilà, ça c'est très important, là, c'est la différence entre le niveau 5 et le niveau 6, c'est que le niveau 5, c'est ce que je viens de décrire, mais avec la possibilité pour un humain, quelque part, de reprendre la main. C'est-à-dire qu'au dernier moment, il dit « Ah non, non, là, tu tires pas. »
Il y a un bouton off quelque part.
Le niveau 6, il n'y a pas de bouton off. C'est vraiment... c'est Schwarzenegger dans Terminator. Et bien ça, ce niveau 6, en fait, c'est pas du tout stratégique pour les états-majors. Parce que, finalement, ça revient à poser une mine quelque part, un truc qu'on ne contrôle pas, et qui, finalement, n'a pas d'intérêt opérationnel. Vaut mieux toujours contrôler un appareil de ce type, parce que, du coup, on peut en faire ce qu'on veut, et l'empêcher de faire une bêtise. Mais surtout, voilà, le chercheur dont je parlais m'a vraiment fait cette analogie de la mine antipersonnelle qu'on pose, et puis au bout d'un moment qu'on oublie, mais qui peut faire des dégâts, on ne sait pas quand et on ne sait pas dans quelles conditions. Donc le robot autonome total, ce n'est pas forcément la priorité.
Alors, on ne verra pas le Terminator autonome, mais on ne verra pas non plus le Terminator au sens robot humanoïde, l'androïde. Comment ça se fait? Parce que finalement, l'audio, c'est son défaut, mais si jamais vous lisez le dossier d'Arnaud dans le numéro de Science et Avenir, vous verrez qu'en gros, ces robots ressemblent, je ne vais pas dire à des jouets, mais c'est vrai que si on regarde ne serait-ce que le chien éclaireur de l'armée française, bon, ça ressemble à un jouet. Mais vous ne verrez dans aucune des armées de robots humanoïdes. Est-ce que, parce que tout simplement, c'est plus efficace d'avoir des robots sur roulettes ou volants ou à quatre pattes, ou parce que, justement, l'image du soldat vraiment humain, mais en mode robot, poserait problème?
C'est effectivement un problème d'efficacité sur le terrain. C'est que le robot autonome humanoïde, une espèce d'armure de métal, en fait, c'est pas très pratique, quoi. Déjà... on a vu dans tous les robots qui existent humanoïdes, pas du tout à vocation militaire, mais qu'on connaît, c'est toujours un peu lent, un peu pâteau, c'est compliqué à les faire se mouvoir. Donc, sur le terrain, c'est pas possible. Donc, effectivement, on privilégie les chenillettes, les robots sur roues, les quadrupèdes, notamment parce que en guerre, le terrain est très très variable et qu'il faut savoir un peu s'adapter à peu près toutes les configurations. Ce à quoi un robot bipède aura beaucoup de difficultés. Il y a des projets, il se trouve, il y a quelques temps, ces derniers temps, j'ai fait des sujets sur des robots bipèdes, des robots universitaires développés. Et c'est vraiment une victoire sur l'adversité que de monter une marche et de faire marcher un robot sur une route goudronnée dégagée, quoi, où il n'y a personne pour... c'est très compliqué, les robots bipèdes. Donc effectivement, on préfère... Et surtout, il faut imaginer que ces robots, ils sont lourdement chargés. C'est-à-dire que soit c'est des robots mules, comme je parlais, donc qui font de la logistique, donc qui portent du matériel. Soit c'est des robots armés avec des mitrailleuses ou des systèmes de reconnaissance, et c'est assez lourd. En plus, s'ils tirent, il faut encaisser le recul. Donc il vaut mieux avoir des machines bien stabilisées.
Avec un centre de gravité très bas,
exactement.
Et comment toi, t'envisages la suite? Est-ce que ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est on envoie une vague de drones sacrifiables en première ligne pour tâter le terrain, faire du repérage et montrer un peu qui est le plus fort, et ensuite on fait débarquer les troupes humaines, ou est-ce qu'on va vers une guerre de robots contre robots et c'est fini? Et on en laisse, tu disais tout à l'heure, histoire d'occuper le terrain, et le vainqueur laisse ses robots sur place.
Je sais pas trop, mais je pense que la stratégie des essaims de drones et du drone suicide va émerger. Pour une raison déjà assez simple, c'est que c'est beaucoup moins coûteux. Même un État ou même des cellules terroristes peuvent s'équiper, c'est triste à dire, peuvent s'équiper d'un petit drone, d'un petit quadricoptère, de mettre dessus une charge explosive et de le lancer contre une cible. Et ils n'ont pas besoin de récupérer le drone, vu que le but c'est de faire du dégât... on va dire à court terme. Donc je pense que ça, on va le voir arriver de plus en plus, quoi. Après, la stratégie des robots contre robots, je sais pas. Après, c'est très difficile de faire des projections. Mais j'y crois pas des masses.
Oui, c'est l'amateur de science-fiction qui imagine un peu ça.
J'y crois pas des masses, mais bon. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de téléopérations encore longtemps. Parce que c'est vrai qu'on est marqué par cet imaginaire-là. On a tous vu depuis 20 ans des images de drones, vous savez, des images un peu vertes qui fuitaient de frappes en Afghanistan et au Pakistan faites par les Américains. Mais ça, tout le temps, c'était des drones téléopérés à distance, quoi. Et je pense que ça va rester encore un long moment, quoi.
C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué jusque-là, je le gardais justement pour la fin. C'est que disent les institutions internationales sur le sujet? Est-ce qu'elles ont l'intention de faire appliquer ou d'édicter des lois comme celle d'Isaac Asimov que j'évoquais en introduction, ou est-ce qu'elles sont muettes sur le sujet parce qu'elles savent que finalement personne ne les écoutera de toute façon?
Alors, il y a des tentatives d'essayer de réguler tout ça, notamment au niveau des Nations Unies. Mais le problème, c'est que personne n'est d'accord.
Ouais.
Et donc, il y a des demandes de moratoire qui ont été, notamment de la part de scientifiques en intelligence artificielle, voilà, des moratoires sur « non, n'utilisons pas l'intelligence artificielle et tous les développements là, qu'on voit depuis ces dernières années, que ce soit en militaire ou pas, n'utilisons pas ces technologies pour faire la guerre ». Donc, mais à côté, vous avez des gens comme Vladimir Poutine qui clairement ont dit nous ne signerons jamais un quelconque texte qui limite l'usage de ces... Même si on ne les utilise pas, je veux dire, on ne veut pas que nos développements soient limités par un quelconque texte. Bon, les Chinois, c'est pareil. Donc non, personne n'est sur la même longueur d'onde. Donc pour l'instant, il n'y a pas de texte officiel qui interdit, limite, quoi que ce soit. Après, si on fouille dans le droit international, le droit humanitaire, il y a un texte qui évidemment ne parle pas des armes autonomes, mais qui dit que, en gros, s'il y a des armes nouvelles qui arrivent, je crois que c'est la clause de Martens, ça s'appelle la clause de Martens, si des armes nouvelles arrivent, eh bien en fait, il faudrait la loi de la guerre veut que l'État qui les utilise le fasse en conscience, en gros. En conscience de ses principes, d'une certaine valeur. C'est pas un vide juridique, mais c'est en gros l'utilisateur d'une arme, quelle qu'elle soit, d'une arme nouvelle pour laquelle il n'y a pas concrètement un texte qui l'encadre ou pas, comme il y a pour les mines antipersonnelles, par exemple. S'il n'y a pas de texte, eh ben, il y a quand même le devoir de cet État de respecter certains principes qui lui sont chers à lui, et que si il bafoue ses propres principes, si il va à l'encontre de ce qu'on appelle la conscience des peuples, la conscience de sa nation, il a des comptes à rendre. Ça reste très flou, ça reste sujet à interprétation, mais bon, voilà, ça existe.
T'es comme une machine en dessous, n'est-ce pas? Mais comme vivant à l'extérieur.
Et qu'en est-il de la question de la responsabilité? J'imagine que les pays porteront le poids et la responsabilité des meurtres qui pourraient être commis par leurs robots potentiellement autonomes. Mais se pose aussi la question des développeurs. C'est-à-dire que je suis développeur d'une IA ou d'un robot autonome. Est-ce que finalement, si jamais il tue quelqu'un, ce robot, est-ce que c'est pas moi le responsable des morts qui s'en suivent?
Alors là, c'est un vrai débat qui va se faire jour de plus en plus, je pense. C'est que jusque-là, grosso modo, la plupart des technologies de pointe commençaient dans le domaine militaire. Prenons juste l'exemple du GPS, par exemple. Là, c'était une technologie militaire qui est rentrée dans les 90 dans les usages civils. Donc, ça se passait comme ça. Et en fait, depuis quelques temps, les développements high-tech, et notamment tout ce qui est intelligence artificielle, c'est surtout guidé par le civil, par les sociétés qu'on connaît, hein, Facebook, Amazon, Google, qui sont en pointe là-dessus et qui, peu à peu, sont reprises par le militaire. C'est-à-dire que, évidemment, le militaire s'est toujours intéressé à ces technologies-là, mais comme dans le monde de la recherche académique, à un moment donné, c'était dans les années 90 notamment, l'intelligence artificielle, ça ne marchait pas. Donc tout le monde a laissé tomber, à part quelques chercheurs, des Yann Lequin ou d'autres, qui persévéraient dans leur recherche. Donc, et l'armée, comme tout le monde, dit bon, ça ne marche pas, on va mettre ça en suspens. Machin. Et donc, du coup, et là, l'armée est revenue un petit peu frapper à la porte en disant on aimerait bien travailler avec vous, Google. Mais voilà, et se pose la question, du coup, Google, Facebook, Amazon deviennent, d'une manière ou d'une autre, des prestataires de l'armée,
ouais.
des fabricants de composants qui vont finir dans des armes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, le droit de la guerre, ce qu'on appelle le droit humanitaire, stipule que, par exemple, en cas de guerre, ça arrive tout le temps, c'est-à-dire que une usine de bombes, une usine d'armement qui est bombardée par l'ennemi en cas de guerre, c'est pas considéré comme un crime de guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'usine, il y a des civils, il y a des employés, des ouvriers, mais on considère que ces gens savent en gros où ils mettent les pieds. Mmh. Et que dans un cadre guerrier, dans un cadre de conflit, bombarder de telles installations, que ce soit une installation militaire ou une fabrique de bombes ou de chars d'assaut, ou de ce que vous voulez, bombarder ces endroits et faire des morts, c'est pas considéré comme un crime de guerre. Du coup, imaginons un conflit. Amazon qui fournirait par exemple, du cloud pour l'armée américaine ou Microsoft ou Facebook qui fournirait des technos. Je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est juste
imagine.
J'en imagine. Et Amazon a des contrats avec le Pentagone qui l'a noué il n'y a pas longtemps, Microsoft aussi. Donc, imaginons que ces data centers de Facebook ou d'Amazon ou de Microsoft soient bombardés. Eh ben, on pourrait considérer que ça fait partie
de la guerre.
Ça fait partie de la guerre parce que ces technologies, les divers entrepôts de données qui ont été utilisés pour faire marcher un navire autonome ou des drones téléopérés, et ben en fait, ça fait partie des cibles légitimes et que ben les gens qui y avaient dedans, peut-être que c'est triste à dire, mais ils font partie des victimes de guerre.
Ouais, ouais. Ils sont assimilés à des militaires.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, en 2018, les employés de Google ont fait quasiment, enfin, ont fait une pétition auprès de leurs dirigeants, dire on ne veut plus bosser pour la DARPA, donc pour le et pour l'armée américaine. Voilà, ils invoquaient des principes éthiques. Voilà, on veut pas que notre société, notre travail serve à terme à tuer des gens. Donc c'est vrai que Google s'est désengagé de ses contrats avec l'armée américaine en 2018. Mais du coup, ces contrats ont été repris par Microsoft et Amazon. Donc qui eux-mêmes du coup sont peut-être à terme seront dans la ligne de mire. On ne sait pas. Donc voilà, c'est une réflexion, voilà, c'est totalement théorique pour l'instant, mais en discutant avec des spécialistes de tout ça, voilà, c'est pas quelque chose de farfelu.
Merci commandant De Villars pour cet épisode forcément un peu dramatique hein, quand même. Hein. On a oui, entrouvert des portes qui...
C'est pas toujours, en termes de sujet, de choses à creuser, c'est intéressant, mais voilà, en termes on va dire purement journalistique, mais la réalité qu'il y a derrière est pas très plaisante, non.
L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Parce que si une machine, le Terminator, peut découvrir la valeur d'une vie humaine, peut-être le pouvons-nous aussi.
Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous enjoins évidemment à lire le dossier d'Arnaud qui en plus est très bien illustré, donc ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ressemblent ces armes de mort, mais aussi vous pouvez tout simplement aller sur Google et vous taper Boston Dynamics et vous verrez déjà un peu aussi les différents projets, sachant que Boston Dynamics était un temps une filiale de Google. Sur ce, on vous dit à dans deux semaines et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.